懂不？
Vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et notre thème du jour, c'est le Brésil avec Fred Ligne de l'association Autre Brésil qui va nous parler de tout ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années même au Brésil et puis aussi témoigner de ce qui peut être fait avec des actions militantes à travers le monde. Il n'y a pas qu'au Brésil qu'on peut lutter contre l'arrivée des dictatures. Mais nous allons attaquer, dès que Jean-Marc a découvert comment brancher son casque, nous allons attaquer par les chroniques d'actualité de Jean-Marc. La première parle de la loi anti-casseurs.
Alors, la loi anti-casseurs, vous savez tous ce que c'est une super loi, et oui, elle est enfin adoptée. Ce magnifique instrument républicain et démocratique, ce texte si bon pour les libertés et si efficace que le monde entier nous envie. Nous regrettons la pusillanimité du Conseil constitutionnel, car cela aurait pu être encore mieux. Cependant, nous rêvons d'une deuxième loi anti-casseurs, d'un autre type et d'une autre ampleur. Une loi permettant d'arrêter de façon préventive les hommes politiques et les patrons qui détruisent l'environnement par leur inaction, ou par leurs lois imbéciles, ou par leurs actes non moins imbéciles. Une loi anti-casseurs qui permettrait de mettre en prison tous ceux qui bénéficient ou autorisent des retraites chapeaux inexplicables, honteuses et totalement improductives, ou des salaires démesurés pour les dirigeants. Une loi anti-casseurs pour punir les mensonges en politique. Bref, une loi anti-casseurs qui vise enfin les vrais casseurs, les casseurs de masse, qui ruinent pays et peuples à la tête de leurs entreprises, de leurs gouvernements, de leurs organisations internationales, etc. Bref, une loi anti-casseur qui mettrait en avant de nouveaux chefs d'inculpation comme l'écocide, le crime économique contre l'humanité. En fait, une vraie loi contre les vrais casseurs, quoi.
Je te trouve un petit peu moqueur, là, quand même, sur cette loi. Quand même, c'est... Non, mais c'est pas très républicain, tout ce que tu dis, là. Allez, tu vas continuer, j'ai l'impression, pour nous parler d'un grand plan. Ça, c'est un mot qui tient la route. Un grand plan hémiplégique.
Oui, je pense que ce pourrait être une des futures grandes causes nationales, puisqu'on adore faire des grandes causes annuelles qui ne servent à rien et qui ne débouchent sur rien, mais là, ça pourrait valoir le coup. Une grande conclusion hors grand débat, les Français réclament un grand plan national contre cette terrible pathologie qu'on nomme l'hémiplégie. Cette affection, souvent post-traumatique, réduit à l'impuissance un corps par la paralysie d'une moitié de l'organisme. Avec détermination et volonté, nous pourrions vaincre ce fléau et faire réapparaître un semblant d'activité dans ce qu'on nomme la partie gauche du gouvernement, qui subit une totale asthénie depuis 2 ans. Le remède le plus efficace et le moins coûteux serait peut-être de changer de gouvernement, de président, de république. En tout cas, cela ne pourrait pas être pire.
Et dernier sujet qui énerve le Jean-Marc dans son actualité, mais celle-là, elle le touche de près, vu que ça touche au monde de l'enseignement, c'est la loi Blanquer.
Oui, alors Blanquer, c'est le nouveau Darty du gouvernement, avec son contrat de confiance pourri. Le très libéral ministre de l'Éducation n'en finit pas de balancer des boulets, des missiles et des scuds sur ses propres troupes. Il adore bombarder ses propres troupes ministérielles et ses enseignants de petites phrases, des réformes. Il dynamite l'école, mais rassurez-vous, il nous le dit tous les jours, c'est pour notre bien à tous. Et si on ne comprend pas, c'est qu'on est vraiment trop con. Je ne résiste pas ce soir à vous lire des extraits d'un texte très bien troussé d'un enseignant qui répond à son cher ministre. Monsieur le ministre, je m'octroie une petite pause dans mes copies dominicales pour répondre avec sincérité à votre lettre reçue ce vendredi. Elle a pour titre « La loi pour une école de la confiance ». Elle débute par la confiance et se conclut avec « Toute ma confiance ». Cette fois, le mot « confiance » dans une courte lettre. Je m'interroge. Me vient alors cette question préalable, inévitable, essentielle. Pouvons-nous vous faire confiance, monsieur Blanquer? Aurais-je dû vous faire confiance lorsque vous aviez promis en arrivant au ministère de ne pas faire une nouvelle loi? Dois-je vous faire confiance lorsque vous prétendez réduire les inégalités sociales sans traiter un seul instant le problème fondamental de la mixité? Suis-je autorisé à vous faire confiance lorsque vous supprimez 2600 postes dans le secondaire quand 40 000 écoliers arrivent en sixième? difficile de vous faire confiance lorsque vous m'écrivez que vous investissez massivement dans l'éducation avec la création de 2300 postes qui représentent 4 ridicules pourcents des 59 500 postes que vous aviez supprimés sous Sarkozy puisque vous étiez déjà aux manettes sous les ministres précédents de la droite. Puis-je vous faire confiance lorsque vous tentez de relever le niveau de tous en mathématiques en les rendant facultatives à partir de la classe de première ? Très compliqué de faire confiance à celui qui impose des programmes rejetés massivement par le Conseil supérieur de l'éducation. Suis-je prêt à faire totalement confiance à celui qui empêche mes représentants syndicaux de me représenter ? Et inversement, monsieur le ministre, je me questionne sur la confiance que vous me portez. Est-ce pour renforcer notre lien de confiance que vous gelez mon salaire ? Me faites-vous suffisamment confiance en m'interdisant de critiquer publiquement vos choix ? Me faites-vous confiance en interdisant tout attroupement lors de votre venue ? Empli de cette confiance, pouvez-vous envoyer cette lettre de menace, de sanction, y compris pénale, à ceux qui ne partagent pas votre passion de l'évaluation ? Confirmez-vous votre confiance en gazant des enseignants pacifistes devant un rectorat ? Est-ce gage de confiance de réagir avec 10 jours de retard au suicide d'un enseignant ? Dois-je croire que vous me faites confiance en qualifiant mes arguments de bobards et d'intoxication ? Mais très paradoxalement, ne me faites-vous pas un peu trop confiance parfois ? Comme vous le constatez, à tant le répéter, ce mot devient creux, vide, inaudible. Et à tant le contredire dans les faits, il finit faux, hypocrite, mensonger. Ne m'en voulez pas, monsieur le ministre, la confiance ne se décrète pas. En toute sincérité, Philippe Bruyère. Et je rajouterai qu'il n'y a que les petits hommes qui craignent les petits écrits.
Alors, des petits écrits, on va les poursuivre pour critiquer ce cher ministre Jean-Michel Blanquer, et en allant un peu plus dans les détails de la loi et surtout dans son implication pour l'école primaire. Alors, on vient d'en parler, ça c'est général, cette volonté de museler la parole enseignante, c'est-à-dire sous couvert de ce mot, qui est l'école de la confiance, ça revient à l'exemplarité, de refuser que tout personnel de l'éducation nationale soit en mesure de dénigrer l'institution scolaire sous peine d'une poursuite judiciaire. Ce qui, par rapport à la liberté pédagogique de l'enseignant, est un retour en arrière de plusieurs décennies, voire siècles, par rapport à ça. Alors, le ministre nous dit que ça ne change rien à la loi, hein, que le tout fonctionnaire et encore un fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale se doit d'écouter et de transmettre la parole du ministre. Mais ce n'est pas toujours ce qui permet d'avoir une véritable liberté pédagogique et encore moins de permettre peut-être une éducation qui saurait résister demain, on ne sait pas, à un gouvernement de plus en plus à droite et qui serait prêt à imposer on ne sait quelle réforme sur le contenu de l'éducation. Alors ce contenu, justement, on peut en parler parce que l'école vient de changer sur la liberté d'expression, entre autres sur l'indépendance de l'évaluation de ce qu'est l'école. Jusqu'ici, il y avait le CNESCO, qui était une institution indépendante, qui était là pour évaluer la politique éducative. Le ministre vient de le faire disparaître et le remplace par le CE, le Conseil d'évaluation de l'école, dont 10 des 14 membres est choisi par le ministre. Magie. Tout vient de changer. En un petit revers de texte, il n'y a absolument plus de possibilité pour une certaine vision indépendante de dire autre chose de ce que pense le ministre.
Blanquer a dû se former avec Erdogan à Istanbul.
Bonne remarque. Maintenant, prenons des points bien précis de la réforme des maternelles et des primaires. Dans cette réforme, on peut en citer 3 bien importantes. La première, c'est peut-être celle qui dit que qui est rapportée par tous ces affreux syndicats, qui nous disent que le financement de l'école privée va être brutalement augmenté par la loi Blanquer. Alors c'est un mécanisme assez complexe en fait. C'est pas du tout écrit que l'école privée va ramasser un pactole dû à la loi Blanquer. Il est marqué plus exactement dans le texte que la loi va maintenant abaisser l'âge à partir duquel l'école est obligatoire à 3 ans au lieu de 6 comme actuellement. Alors ça va pas changer grand-chose vu que 99% selon certains textes des enfants sont déjà scolarisés à partir de 3 ans et 97% si on pense à quelques absentéistes. Dans cette logique, ça va pas changer le quotidien des élèves. Par contre, ce qui va changer, c'est une loi qu'on a peut-être oubliée, mais la loi Debré de 1959, qui contraint les communes à financer les écoles élémentaires privées à même hauteur que les écoles publiques. C'est-à-dire que les municipalités, qui aujourd'hui ne le font pas toutes, vont être obligées de verser un complément aux écoles privées sous contrat, ce que ne touchaient jusqu'ici que les écoles publiques à partir du primaire. Et ce, pour tous les élèves de 3 à 5 ans. Alors, il est difficile d'évaluer exactement la somme. Certains parlent de 100 000... j'ai oublié le chiffre que j'avais sous les yeux il y a 2 secondes, de pratiquement 100 000 100 millions d'euros par an. Les syndicats, eux, parlent de 150 millions d'euros. On peut même faire un chiffre un peu précis. À Paris, il y a 12 millions d'élèves qui sont dans les maternelles privées ou sous contrat. C'est-à-dire pratiquement 1086 euros de forfait communal. Et que normalement, les communes, donc la ville de Paris, doivent verser brutalement demain à l'école privée. Et ça, c'est une somme qui va être immédiatement accessible pour toutes ces écoles privées, mais l'État n'est même pas véritablement prévu d'abonder pour aider les communes.
C'est peut-être 12 millions et demi d'euros.
Alors, non.
Du 12 millions et demi d'élèves.
Je l'ai retrouvé mon chiffre. Hein, à 12 millions d'élèves, c'est 12 millions d'euros, c'est-à-dire 10 860 élèves en maternelle privée sous contrat, multipliés par 1086 euros de forfait communal. Merci d'avoir...
On était à Pékin.
Ouais. Alors ça, c'est quelque chose d'assez choquant, et il est assez amusant de voir le ministre ne jamais répondre à cette remarque. Il évite parfaitement toute remarque le concernant. Dernier point peut-être massif...
C'est même pas qu'il ne répond pas, c'est que Blanquer interdit les questions.
Oui,
c'est
sa
technique. Plutôt que de ne pas répondre, il interdit les questions.
Alors, dernière remarque, et celle-là, elle est peut-être effrayante. C'est celle qui est la destruction de l'école primaire et maternelle, telle qu'on l'entend. Aujourd'hui, l'école est une école de proximité. On permet d'amener son enfant dans son quartier, dans son village, dans le village d'à côté, facilement, des classes petites, avec un référent, qui est la directeur ou les directrices, capable d'écouter tous les problèmes qui vont d'avoir oublié son doudou jusqu'à un certificat de scolarité, en passant pour nos quartiers en difficulté, pourquoi pas d'avoir une aide à la compréhension pour des parents qui ne parlent pas le français. Ce référent va disparaître dans ce qu'on appelle l'école publique des savoirs fondamentaux, qui est un regroupement des différents primaires au sein du collège le plus proche. On va pouvoir regrouper ainsi plusieurs établissements dans un seul, avec à la tête le proviseur, le principal, qui va diriger l'intégralité de l'entrée à 3 ans jusqu'à la fin de la scolarité du collège, donc jusqu'en 3e. Alors, le ministre se défend en disant que ce n'est pas une évolution. Il y aura une partie de l'école qui restera traditionnelle, et puis il y a une certaine liberté. Droit à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on donne à chaque collectivité territoriale, des villes ou des départements ou des régions, le droit d'organiser comme il le veut son système éducatif. On va donc voir, non pas deux, mais trois systèmes éducatifs se mettre en place. Ces fameux EPSF, École publique des savoirs fondamentaux, accolés à l'ancienne école qui va continuer à exister encore jusqu'à ce que on la fasse disparaître. Et puis, petite remarque en passant, les établissements publics internationaux, des établissements d'excellence, qui eux-mêmes vont pouvoir commencer dès le primaire jusqu'à la terminale, voire au-delà, et qui vont permettre d'avoir des élèves qui auront, grâce à une sélection, un niveau européen pour un bac européen dispensé dans plusieurs langues. Et tout ça, c'est l'école publique. Et suivant l'endroit où vous êtes né, et peut-être certaines astuces pour être sélectionné le plus tôt possible, ce qui, évidemment, va permettre de favoriser, encore une fois, que certaines classes supérieures, vous aurez droit à une scolarité dorée ou une scolarité de savoirs fondamentaux.
Sans oublier un taux de suicide record chez les jeunes qui vont être à peine stressés.
Quelle que soit l'école, ils seront stressés. Et dans tout ça, la disparition des écoles traditionnelles, c'est même la disparition de la fonction de directeur et de directrice d'école. Imaginez, vous amener des enfants directement le matin à une porte qui se refermera, clac. Et si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous au proviseur du collège. Ah oui, mais il a 30 kilomètres. On arrête pour les petits mots français. Nous allons maintenant parler aux petits mots brésiliens. Et pour introduire, nous allons écouter Agoun.
O homem do corpo de aço, que sua lava de vulcão. O homem que abre os caminhos, com a ponta do seu facão. Ogum.
Fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons ce soir Fred Lira, membre du CA de Autre-Brésil. Bonsoir Fred.
Bonsoir.
Alors Autre-Brésil, c'est une association fondée en 2003 pour faire découvrir de manière critique l'autre Brésil, celui qu'on ne voit pas dans les grands médias. Et vous organisez notamment un festival de cinéma tous les ans qui s'appelle Brésil en mouvement.
Exactement, en septembre cette année, la fin de septembre.
Ouais. Alors si nous t'avons invité ce soir, c'est parce que le 11 avril, on fêtait les 100 jours de Bolsonaro, le nouveau président du Brésil. Et traditionnellement, en politique, les 100 jours, c'est le moment où on fait un bilan. Alors ce Bolsonaro, on l'a appelé le Trump tropical, le Le Pen brésilien pour les Français, et plus généralement on le compare à toute cette vague de populistes de la droite dure qui s'abat partout dans le monde, en Pologne, en Hongrie, en Italie, aux Philippines, aux États-Unis, en Turquie. Au-delà de ce petit mot rapide et facile du Trump tropical, comment on pourrait définir plus précisément Bolsonaro ? Qui c'est politiquement ?
On pourrait avoir plusieurs adjectifs. Le plus propice serait peut-être un psychopathe, mais ça, c'est pas très, très gentil. Mais je pense que c'est juste.
Ah, moi, j'avais pensé fumier, mais...
Peut-être. On peut avoir des variantes. Mais bon, je pense que là, c'est peut-être une idée. Mais je pense que la comparaison, c'est bonne avec les autres représentants de gouvernements divers que vous avez, qui est à citer. Mais il y a une différence grande qui sépare Bolsonaro et lui fait quand même la bête plus grosse, à mon sens, que tous les autres. C'est la situation particulière du Brésil par rapport à tous ces autres pays, à mon avis. Parce que le Brésil est là. Je fais un détour un peu étrange. On vient d'entendre un morceau qui s'appelle Ogum, qui est joué par le groupe Bongar, qui est un groupe lié au terreiro de Xambá, de Olinda, de Pernambuco, d'où je viens. Et Ogum est un orixá, une sorte de saint de cette religion. Et Ogum, il est le orixá de la guerre. Et il est connu parce que quand il entre en guerre, son sang brûle et il se met dans le combat avec toute sa force. Et je dis ça parce que le mode de gouvernement de Bolsonaro est en fait un mode de guerre civile, quoi. C'est un mode de guerre civile dans un pays où, selon les datas, les numéros de violence, il a déjà... Dans un mode de guerre civile de basse intensité, c'est-à-dire la moyenne d'assassinats au pays durant les gouvernements Lula-Dilma était de 50 000 personnes par an. Et durant les deux années du gouvernement Temer, ça a monté à 60 000 personnes par an. Donc si on prend juste froidement, sans faire objectivement, les chiffres, la quantité des gens qui ont été assassinés dans la guerre civile en Syrie, qui a détruit un pays jusqu'à... Voilà, on sait qu'est-ce que la guerre civile en Syrie. Si on prend objectivement, il y a eu plus d'assassinats au Brésil que de morts dans la guerre civile en Syrie. Et on n'est pas dans une guerre civile officielle. Donc, et on a maintenant un président qui agit comme s'il est dans le mode guerrier, parce qu'il est quand même un militaire. Et il a dit l'autre jour il a dit cette semaine qu'il n'est pas né pour être président, mais il est né pour être un militaire. Il a dit ça. Et dans une situation, dans une société comme ça. Voilà.
Alors justement, c'est un ancien militaire qui a été viré de l'armée d'ailleurs, il faut le rappeler. Et c'est aussi un nostalgique de la dictature militaire du Brésil qui a sévi entre 1964 et 1985. Est-ce que ce Bolsonaro, c'est juste une réplique de cette dictature militaire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à cette dictature ?
C'est les deux à la fois, en fait. C'est les deux à la fois. Il y a, bon, la dictature, c'est un enjeu difficile, théorique, mais les théoriciens que j'aime plus, je cite ici le philosophe théoricien critique Paul Arendt, surtout, mais il y a d'autres, qui en fait, dans une certaine manière de regarder la dictature brésilienne, on peut voir que, en fait, elle a continué. Elle n'a pas fini. On n'a pas un jour précis de la fin de la dictature, comme on a un jour précis de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin du gouvernement de Gaulle, etc. On n'a pas une date précise de la fin de la dictature militaire symbolisée qui peut être peut-être fêtée dans un calendrier qu'on pourrait, on devrait peut-être. On n'a pas.
On est sorti progressivement de la dictature.
Ouais, on a fait ce qu'on appelle une transition, mais selon Powerland, cette transition elle dure encore. Donc on est encore sur la domination d'une certaine manière de la dictature. Parce que c'est elle qui a négocié sa sortie. Donc si la dictature, elle sort, dictature militaire sanguinaire, elle sort et c'est elle qui négocie sa sortie, donc elle n'a pas été vaincue. C'est juste que c'était plus nécessaire. C'était plus nécessaire et la sortie, elle est faite dans une manière où il faut couper les excès. Et couper les excès, c'était quoi? C'était la lutte armée révolutionnaire de gauche, dans la tradition latino-américaine, donc il fallait finir ça, mais il fallait finir l'autre côté. C'était le côté ce qu'on appelle la ligne dure, qui c'était les tortureurs, les assassins, les commandos d'assassins, les commandos de chasse des communistes qu'il y avait au Brésil, etc. Et donc il fallait arrêter, et ça c'était une partie de l'armée, et il fallait arrêter ou calmer, disons, contrôler cette partie. Et Bolsonaro, il faisait partie de ce côté dur. Il était de la ligne dure, un nostalgique, comme tu as dit, de la dictature. Et parce qu'il faisait partie, il était de cette... C'est pas par hasard qu'au moment où il donne le vote de la destitution de Dilma, il fait la mention au Corona Oustre. Corona Oustre était le plus sanguinaire, c'était le diable dans la terre, un des diables. Il est, voilà, comme plusieurs d'autres qu'on peut imaginer. C'était le grand tortureur qui a fait beaucoup de progrès dans cette technique. Donc il a fait allusion parce qu'en fait, lui, il symbolise le retour, mais pas de la dictature qui a sorti gagnante. Il symbolise le retour de la ligne dure. Et durant sa campagne, il a dit que le gros problème de la dictature, et que lui, il allait résoudre ça, c'est parce qu'elle avait tué peu de gens, en fait. Et tuer peu de gens, ça veut dire qu'elle n'avait pas tué 30 000, 40 000 personnes qu'elle aurait dû tuer, selon lui. Et lui, sa mission en tant que président, c'est tuer ces 40 000 personnes. C'est tuer ces 40 000 personnes dans une population qui est trois fois plus qu'à l'époque. Donc peut-être, il est en train de dire qu'il faut tuer 120 000 personnes, en fait. C'est sa mission en tant que président. Il a dit ça durant la campagne, en fait. Pas 120, mais il a dit 30. Ouais.
Donc finalement, c'est un héritier de la dictature, pas seulement en termes de ligne politique, mais aussi en termes de méthode, à savoir cette ligne dure qui implique, entre autres, enfin, qui comprend, entre autres, la torture. Alors, ce retour de la dictature, on l'a vu aussi dans la composition du gouvernement, puisque l'armée tient une grande place. Ouais. Est-ce que tu pourrais commenter ça?
Ouais. En fait, il a réduit de 30 à 22 ministères. Et 8 ministres sont des généraux ou des admiraux, des chefs voilà, des généraux. 8. Jamais, dans l'époque de la dictature, il y avait autant de ministres, de généraux. Et en plus, il y a presque 200... postes stratégiques au deuxième et troisième degré qui sont aussi occupés par des militaires, des généraux, etc. Donc il faut dire que notamment il y a 4 qui sont dans le gouvernement, surtout le général Augusto Heleno, qui est le chef du cabinet de sécurité, que c'est le général le plus important, avec le vice-président Mourão, sont les deux les plus importants, et il y a aussi le ministre de défense Fernando Azevedo et deux autres qui, eux, ils ont été chefs de mission de paix, mission humanitaire, comme c'est connu, du Brésil au Haïti, en Haïti. Donc le Brésil, il a resté environ une dizaine d'années comme le et qui commandait l'intervention de l'ONU, de paix, de humanitaire et tout ce qu'on veut. C'était l'armée brésilienne. Et tous ces 4 généraux qui ont participé de cette intervention humanitaire, Ils sont dans le gouvernement. Ils sont le noyau dur de l'armée. Et en gros, c'est eux qui sont en train de un peu, on va dire, contrôler les actions de Bolsonaro, de donner un sens, une direction, si on peut dire, au gouvernement.
Tu veux dire que ce sont des modérés par rapport au président?
Je dirais pas modéré, parce que quand même, si on va voir qu'est-ce qui s'est passé au Haïti, si ça c'est modéré, on peut imaginer que c'était pas modéré. Ils sont pas de modérés, mais ils sont pas nécessairement alignés à la ligne dure, comme Bolsonaro. Ils sont des généraux. Ben, généraux, voilà. On sait que c'est un généraux. Et ce qui est important de voir, c'est que cette intervention qui a été organisée par Lula, c'était une des choses pour mettre le Brésil dans un nouveau patamar, pour peut-être mettre dans le Conseil de sécurité de l'ONU, toutes ces choses un peu délirantes. C'était une idée de Lula, et c'est raison de cette intervention en Haïti que l'armée il s'est réorganisée, parce qu'il a trouvé une nouvelle direction. Il a fait des contacts avec l'armée américaine notamment, qui était en liaison de parce que c'était une mission de l'ONU quand même. Donc ça a créé des triangulations entre l'armée brésilienne, l'armée américaine. Ça fait partie d'une réorganisation de toute l'armée brésilienne, et qui ça arrive dans un moment où on a des menaces de guerre, par exemple en Venezuela.
Donc tu veux dire que toujours en résonance avec ce passé de la dictature, on retrouve, comme à l'époque de la dictature, une ingérence militaire des USA dans les dictatures, enfin dans les pays sud-américains.
Écoutez, on voit par exemple qu'est-ce qui se passe en Venezuela. L'autre jour, des troupes, c'est peu, mais elles sont arrivées, des troupes russes sont arrivées au Venezuela. La Chine, elle a plein de choses là-bas, mais c'est pas très clair. Les États-Unis, ils ont des bases en Argentine, au Colombie, en Équateur. Ils n'ont pas de base au Brésil, mais un désaccord là que quand Bolsonaro il est allé là, ça fait quelques semaines, rencontrer son copain Trump, un désaccord, c'est probablement la construction d'une base au Brésil aussi, ou. Et il y a une base notamment de qui on va lancer de fusées pour l'espace. Mm-hmm. Ouais. Des fusées pour l'espace qui, au Brésil, c'est stratégique. C'est mieux que celles qu'ils ont en Floride. Mm-hmm. Floride. La position.
Oui, parce qu'on est proche de l'équateur.
Proche de l'équateur. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est ça.
Alors, ce Bolsonaro fait peur, mais oui. le Brésil, c'est quand même un pays fédéral, donc le gouvernement central ne peut pas tout, et en plus de ça, le Congrès au Brésil est fractionné en une multitude de partis. Donc, quel est réellement le pouvoir d'action de Bolsonaro à la tête de l'État, sachant qu'il est dans un pays fédéral et qu'il doit gouverner avec une coalition?
Ça, c'est la nouveauté un peu, disons, une des nouveautés aussi. Parce qu'en fait, ça vient depuis 2016, donc on a eu la destitution au coup d'État de Dilma. Il n'y avait pas un chef, un plan. C'était pas, il n'y avait pas un plan central, quelqu'un. C'était quelque chose qu'ils ont fait un peu, allez, on y va, on va faire, on va faire, on va faire. Et c'était, comme il a l'expression, une tempête parfaite. Les choses s'ajoutaient, mais il tardait d'arriver quelqu'un pour commander, pour gérer la chose. Donc, dès ce moment, on a entre les diverses sphères normatives, c'est comme ça que des sociologues sont en train d'appeler au Brésil, on a des conflits entre le capital, mais le capital financier qui était d'un côté, c'était le dernier à entrer dans le coup d'État de Dilma, mais c'est pas parce qu'ils sont gentils, mais c'est juste que c'était risqué, ils savaient, voilà, c'est juste parce qu'ils sont plus prudents que les autres. Il y a le agrobusiness, le reste de l'industrie brésilienne, qui était pas tout à fait d'accord. Par exemple, la dernière sénatrice a donné le support à Dilma. est une des plus grosses criminelles de qui détruit l'Amazonie, des choses de l'agro-business. Mais elle était la dernière à sortir du bateau du PT. Donc c'est très contradictoire. Il y avait la justice qui était pas homogène, les médias qui, eux, ils étaient plus ensemble, mais ils avaient des intérêts différents. Et en fait, tous ces différentes sphères institutionnelles, publiques ou privées, ils sont pas toujours, ils restent en contradiction entre eux. Et à la différence de Lula et surtout, et aussi Fernandinho qu'avant, c'est exactement ce que Bolsonaro ne fait pas, c'est un gouvernement de coalition. Il fait pas une médiation entre ces sphères. Et c'est pour ça, beaucoup pour ça, que la situation est très chaotique. Donc il y a déjà eu plusieurs conflits avec le Congrès. Parfois, il sort d'une réunion avec le Congrès. Après, il fait un Twitter et ça redevient les bagarres, les conflits. Donc il n'y a pas une ligne droite. Donc si on suit au jour à jour les événements au Brésil, c'est comme un carnaval, le monde à l'envers. C'est le carnaval, il aurait dû finir il y a un mois et demi, mais il continue.
Donc, il parle beaucoup, mais il n'agit pas forcément, il n'a pas forcément les moyens d'agir tant que ça.
Non, mais juste comme il est un président, s'il dit quelque chose, c'est performatique. Donc juste le fait de faire un Twitter ou donner une déclaration un peu folle ou délirante, s'il est ministre, s'il est président, juste le fait de dire, ça change déjà la situation.
Et au niveau fédéral, est-ce qu'il peut s'appuyer sur des gouverneurs d'État, puisque le Brésil est une fédération d'État, est-ce qu'il peut s'appuyer sur des gouverneurs qui seraient sur la même ligne politique que lui et qui déclineraient au niveau local sa politique?
Ça, c'est une question assez compliquée parce que c'est vrai qu'ils sont fédérales, mais les fédérations, les États, ils sont beaucoup moins indépendants qu'aux États-Unis. Donc, pour la plupart, ils sont une faillite complète depuis quelques années. Ils dépendent du financement du gouvernement fédéral direct. Donc, pour la plupart, par exemple, celui de Rio, il est en faillite complète. Donc, c'est en gros, ça reste juste la police militaire. Les restes, c'est un peu en train d'effondre de plus en plus vite. D'où je viens, à Pernambouc aussi. Donc, en gros, c'est difficile d'imaginer qu'il va sortir une opposition des gouverneurs des États fédératifs parce que leur dépendance par rapport au gouvernement fédéral au niveau budgétaire est énorme. Et donc, et comme il voit qu'est-ce que c'est Bolsonaro, si quelqu'un entre en conflit direct, il va couper l'argent, tout simplement. D'accord. Donc, il pourrait faire ça.
Ah, nous allons voir comment justement résister à ce Bolsonaro, juste après cette musique qui s'appelle Trabalho.
O recado é o seguinte, a hora é agora e vamos que vamos.
.3, fréquence par les pluriels, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et avec notre invité Fred Lira de Autre Brésil. Et nous venons d'écouter Trabalho. Fred, qu'est-ce que c'est?
Ouais, c'est une chanson de Mundo Livre S.A., Mundo Livre Société Anonyme. C'est un groupe qui est toujours existant, ça vient des années 80, liées au altermondialisme, très influencé par le mouvement zapatiste, par exemple. Et ce morceau, bon, en gros, c'est deux ou trois phrases, et en fait, il a un vidéoclip assez intéressant, l'éternel retour de la recherche pour un nouveau travail, en fait. Travail, j'ai un nouveau travail, la recherche pour un nouveau travail. Et cette recherche pour un nouveau travail a une réalité pour, on va dire, 100 millions de personnes au Brésil, un peu moins, un peu plus, de cette instabilité qui dure déjà une trentaine d'années, on va dire.
Alors nous sommes en train de parler des 100 jours de Bolsonaro, le nouveau président du Brésil. Et nous allons parler maintenant des espoirs de changement. s'il y en a. Alors, un premier espoir, ça vient peut-être des contradictions qu'il y aurait dans sa coalition. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Bolsonaro s'appuie sur une coalition assez hétéroclite de juges de droite, de militaires, de partis divers et variés, d'églises, de patrons, la finance, l'agro-business. Est-ce qu'il réussit à faire vivre ensemble, en harmonie, cet assemblage ?
Je ne pense pas qu'il va pouvoir réussir à faire survivre dans une harmonie, parce que c'est contre sa nature, c'est contre la nature de comment il a été élu et de comment il peut garder ses 20-30% de base d'appui forte. Cette base, elle a été, c'était la base qu'il y a depuis quelques années, disons. Elle lui a supporté parce que lui, il se montrait anti-establishment, contre vraiment les institutions. Et apparemment, ça c'est des spéculations, une des justificatives pour qu'il gouverne et il dit les choses qu'il dit, c'est parce que sinon il perd son appui fort. Donc s'il joue les règles du jeu comme c'est déterminé, peut-être. Et ça c'est un côté. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau institutionnel, on a forcément des espoirs qui vont sortir de cette contradiction, parce que peut-être la contradiction peut se résoudre dans une synthèse aussi négative. Parce que si l'armée, elle est là, elle est l'enture, et son vice-président est un général qui a une vie publique depuis quelques mois. Il donne des entretiens. Normalement, il apparaît comme quelqu'un de beaucoup plus articulé, qui dit des choses que le marché trouve bien. Il parle, il a un discours organisé qui, dans l'élite brésilienne, est en train de résonner comme quelqu'un de bien, en général. Donc, peut-être on va avoir un mouvement décisoire, déception, et rentrer directement dans une dictature. Parce que c'est vrai, au début d'émission, il a dit que peut-être c'était un mouvement de dictature, tout ça, c'est pas encore. On ne peut pas oublier que Bolsonaro, malgré tout, il a été élu dans les règles du jeu. C'est que le jeu, il est un peu bizarre, mais c'était ça.
Mais ma question, c'était surtout, est-ce qu'il peut déjà y avoir des craquements dans sa coalition ? Par exemple, est-ce que les positions extrêmement idéologiques, très, très rétrogrades, des églises évangéliques qui le soutiennent, peuvent entrer en contradiction avec les autres membres de la coalition ?
Tant que le fric roule, ça va aller. Donc si les réformes des retraites, certaines choses, la réorganisation de l'État, si certaines demandes pour la famille, pour la patrie, plus idéologiques, qui vont être bien reçues par les évangéliques et qui en même temps ne changent pas trop pour les banquiers, parce que voilà, ils vivent leur vie, ils vivent même pour la plupart dehors du Brésil. Donc, il pourrait faire un arrangement là. Mais parfois, ce qui est curieux ou un peu anthropique chez Bolsonaro, c'est que même ça, il ne fait pas, en fait.
Alors, les espoirs qu'on peut avoir sur un craquement interne de sa coalition, donc ça reste limité pour l'instant. On peut... Sinon, avoir des espoirs sur les forces externes, c'est-à-dire le mouvement social, les autres partis. Quelles sont les forces en présence aujourd'hui qui pourraient résister à Bolsonaro et construire un futur changement ?
Il faut savoir que depuis 2013-2012, le pays, le Brésil, et ça, Bolsonaro aussi a une réaction à ça. Depuis déjà 5 ou 6 ans, le Brésil, il vit un mouvement de convulsion sociale très forte, avec des records après records de grèves sauvages, dans tous les niveaux, des nouveaux mouvements populaires qui apparaissent, une croissance, un mouvement féministe très radical et très anticapitaliste, de plus en plus anticapitaliste. Le mouvement noir, il est très il prend une facette aussi, une partie de ce mouvement très anticapitaliste, très forte. Les Indiens sont en train de se réorganiser pour leur survie, parce que s'ils ne se réorganisent pas, ils vont être tués. Et le mouvement classique, ils sont en train de se repenser, se recréer, le MST, le MTST, d'autres mouvements. Il faut qu'ils se réinventent. Et peut-être ils sont en train de le faire. Mais il faut le dire qu'il y a une convulsion sociale comme peu d'époque avant. Et Bolsonaro est aussi une réaction à ça. C'est pas juste une réaction institutionnelle, mais c'est une réaction à ce que se passe au niveau plus bas de la population. Et parce que on ne peut pas oublier ça, je pense. Ça, c'est très important. Le Brésil est un pays ingouvernable, pas juste au niveau institutionnel et des grosses, mais aussi parce qu'en bas, les gens ne supportent plus cette vie, quoi.
Alors, l'état de la population, il dépend aussi des médias dominants. Est-ce que les médias dominants continuent à soutenir Bolsonaro, ou s'ils l'ont soutenu, parce qu'il a... Il n'a pas forcément été toujours soutenu par ces médias.
Il n'était pas le candidat des médias, c'était Alckmin, mais lui il a eu 4%, c'était ridicule. Il n'avait jamais eu vraiment de chance, c'était très naïf des gens qui pensaient qu'il avait des chances. Mais en fait, je me méfierais un peu des grands médias. Les grands médias, ils ont toujours été putschistes, ils ont toujours supporté la droite, l'extrême droite. Au moment où Bolsonaro les arrangeait, ils ont le supporté ou ils ont fait semblant que ça ne dérangeait pas trop. Ils ont essayé de le normaliser pour qu'il soit élu. Et si, c'est vrai que parfois, ils font des mouvements en lui menaçant de retirer son appui. Après, ils reviennent en arrière. Donc, c'est pas très clair, très clair. Et moi, je ne ferais pas confiance à Globo, Folha de São Paulo, le Stade. Ils sont des ennemis. Sont des ennemis, des vrais ennemis et ennemis anciens. Donc moi, je ne ferai pas confiance. Et si un jour la Globo finit, ou peut-être les stades ou Folha de São Paulo, par exemple, c'est le gros journaux, peut-être il va finir. Ça ne va pas changer grand-chose.
Donc finalement, le peuple brésilien ne peut compter que sur lui-même pour sortir
définitivement,
de cette situation.
Ouais. Les élites brésiliennes sont... Vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est des seigneurs d'esclaves. Hein. Ils n'ont jamais sorti de l'esclavage, les élites brésiliennes. Dans leur tête, on a toujours des esclaves.
Bien, merci Frederico pour cette interview. Et nous allons passer la parole.
Merci à vous.
Hein. Et bien, on enchaîne avec Alex qui va nous parler à présent d'un sujet d'économie. On revient peut-être en France ou dans le monde entier parce que c'est un thème qu'on entend abondamment. C'est que quand l'économie va, tout va, c'est-à-dire la théorie du ruissellement.
Non, c'est pas quand l'économie va, tout va, c'est quand les riches vont bien, tout va bien pour tout le monde. C'est ça la théorie du ruissellement. Et alors donc c'est ça qu'on va essayer de discuter. Et donc parler du ruissellement, donc d'économie, et pourquoi le ruissellement ? Parce que c'est à la mode depuis quelques années. C'est une théorie, c'est pas une théorie en fait. C'est une image, une notion, une idée qui a servi à justifier un peu tout et n'importe quoi, mais surtout, et on l'a vu en France, les cadeaux fiscaux à l'égard des plus riches. Donc l'image, elle est très jolie. Les richesses accumulées au sommet vont progressivement redescendre vers la plaine sous forme de petits ruisseaux qui deviennent des torrents impétueux, puis des fleuves majestueux qui viennent enrichir les plus modestes. C'est beau.
Ou les riches qui pissent sur les pauvres.
Dans les deux cas, ça a la couleur de l'or. Au nom de ce principe, il faut réduire le taux d'imposition des plus fortunés, réduire l'ISF, afin que les riches consomment et investissent. Leur consommation et leurs investissements sont ces modestes cours d'eau qui vont alimenter en richesse l'ensemble de l'économie. Problème. Cette idée qui se pare des atours de la scientificité, l'est-elle réellement ? Et donc du coup, j'ai essayé de faire un peu de recherche. Et j'ai essayé de trouver l'origine de l'idée parmi les économistes reconnus, les vrais, les sérieux. Et seuls deux semblent lui donner un petit peu de poids ou l'avoir utilisé. C'est pas très scientifique, voilà. Le ruissellement. Non, ben je parle de vrai, moi. le premier cité par Sapir, parce que Sapir a exactement la même interrogation, c'est Cantillon. Alors Cantillon n'est pas très connu, c'est un économiste français du début du XVIIIe siècle. Autrement dire, en économie, c'est la préhistoire. Il utilise l'image d'un galion pour expliquer comment les richesses circulent. Un galion chargé d'or et d'argent provenant des Amériques, on fait le lien avec le Brésil, enrichit les grands seigneurs espagnols ou portugais. Ceux-ci vont utiliser cet or et cet argent pour s'acheter des biens de luxe, se faire construire des demeures somptueuses, acheter quelques canons aussi, enrichissent au passage des artisans et des maçons qui, à leur tour, vont consommer, enrichissant l'ensemble de l'Espagne, du Portugal, de l'Europe, etc.
On va parler de Carlos Ghosn.
Problème. Même à l'époque de Cantillon, cette vision un peu optimiste du ruissellement a été très critiquée par d'autres économistes un peu plus conséquents, un peu plus sérieux. L'afflux de richesses sous forme monétaire, s'il ne s'accompagne pas d'une augmentation des capacités de production de biens de consommation, ne va pas avoir d'autre effet que d'augmenter le prix, les prix, appauvrissant encore plus les moins fortunés. Et c'est ce qui s'est passé en Espagne, en pratique. Donc l'image de Cantillon ne permet d'affirmer en tout cas qu'une seule chose, qui est de l'ordre de l'évidence. Les richesses circulent au rythme des échanges monétaires. Donc on le savait. Et on en a la confirmation. Le vrai problème que Cantillon ne se posait pas à l'époque, mais qu'on le devrait se poser maintenant, c'est le suivant. Est-ce qu'il y a plus ou moins de croissance si les riches accumulent des fortunes ou si les fruits de la croissance sont équitablement répartis? Et c'est à peu près dans ces termes-là qu'au XXe siècle, Simon Kuznets, prix Nobel d'économie, s'est posé la question. Et lui aussi a utilisé la notion de ruissellement. Donc c'est un Américain. Et dans les années 50, il s'est posé une question apparemment étrange, mais complètement orientée. L'enrichissement d'un pays conduit-il inexorablement, comme l'imaginent les marxistes, à une augmentation des inégalités ou au contraire à une atténuation de ces inégalités? Vous imaginez la réponse. Il a répondu à cette question par la désormais très célèbre courbe en U renversée, dite courbe de Kuznets. Dans un premier temps, le développement de l'économie conduit à l'accumulation du capital entre les mains d'un certain nombre restreint de très riches. Mais dans un deuxième temps, passé un certain seuil de développement, les richesses redescendent par ruissellement, conduisant à une diminution des inégalités. Malheureusement, pour le bouquin...
C'est la conclusion du grand débat ?
C'était la conclusion de Kuznets dans les années 50. Le problème, c'est qu'il a jamais vraiment explicité comment ça marchait, le ruissellement. Comment, concrètement, l'argent redescend. Alors du coup, c'était une vraie question, et il y a d'autres économistes qui ont essayé de le faire. Donc, on va parler un petit peu de consommation. La consommation des riches entraînerait-elle l'enrichissement des pauvres ? Pas tellement. Les riches, ils consomment peu parce qu'ils sont peu nombreux et parce qu'ils épargnent proportionnellement plus que les pauvres. On pourrait même renverser les termes. En fait, c'est la consommation des pauvres qui enrichit beaucoup les riches, car ceux-ci possèdent le capital et prélèvent une part disproportionnée des profits réalisés par les entreprises qui vendent aux pauvres. Donc le ruissellement est moins puissant que l'évaporation qui conduit à l'accumulation de l'eau en haut sous forme de glace dans les hauteurs gelées des sommets des très riches. Si les riches épargnent beaucoup, ils investissent. Et leurs investissements devraient profiter à tous, pauvres comme riches. Oui et non. Oui, en principe, les placements des riches doivent financer les investissements des entreprises permettant l'augmentation de la production et l'enrichissement de tous ceux qui participent à la production de richesses, mais... En gros, les riches, ils donnent de l'argent aux entreprises, les entreprises, elles emploient des gens, donc ça fait tout le monde être... Il est content, il est heureux, il a un salaire. Ok ?
Merci.
Je t'en prie. Mais il y a deux hic. Problème, c'est que tous les placements réalisés par les riches sont pas forcément productifs. Les placements qui rapportent le plus sont généralement spéculatifs et ne conduisent pas tant à la création de richesses qu'à la déstabilisation de l'économie. Donc depuis la crise de 2008, on a pas mal travaillé là-dessus, on a remarqué qu'il y avait une corrélation entre l'augmentation de la fréquence des crises financières et l'augmentation des inégalités. Et c'est pas illogique parce que les riches, ils aiment les placements qui rapportent beaucoup et c'est les placements risqués. Et comme ils sont riches, ils ont les moyens de supporter le risque. Donc ils vont en prendre. Deuxième hic, même quand un placement n'est pas spéculatif et qu'il permet d'alimenter l'économie réelle, il ne conduit pas toujours à la création d'emplois ou à des augmentations de salaires qui enrichiraient les masses laborieuses. En réalité, les investissements des riches, ils ont surtout, et c'est pas vraiment une grande découverte, hein, Marx il l'avait dit, mais très clairement, il y a un siècle et demi, ont surtout pour finalité de conserver une fortune en la faisant travailler. C'était là en faisant travailler les pauvres. Alors d'où vient le ruissellement de Kuznets? Pourquoi l'enrichissement des pays développés a conduit à la constitution d'une grande classe moyenne? Parce qu'il y a une part de vrai dans ce qu'il dit Kuznets. Les réponses, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Donc première réponse, c'est la création d'emplois qualifiés. Et comme c'était des emplois qualifiés, il fallait les payer un peu mieux que les ouvriers. Parce qu'une économie moderne, ça a besoin d'ingénieurs, de professeurs, de médecins, et il faut les payer mieux que les ouvriers parce qu'ils font des études. Mais surtout, et ça c'est le principal, Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une diminution des inégalités à partir des années 30? C'est parce qu'on a mis en place de manière autoritaire et étatiste un État-providence qui prend aux riches pour donner aux plus pauvres. Donc le seul vrai ruissellement qui fonctionne, c'est celui qui est fait de manière autoritaire par l'État grâce à des impôts progressifs et des taux élevés pour les plus riches et des choses comme l'ISF.
Donc, mais c'est confiscatoire.
Exactement. Donc la boucle est bouclée. Macron et ses amis justifient la baisse des impôts au nom d'un soi-disant, une soi-disant théorie du ruissellement, alors qu'en réalité, le vrai ruissellement, c'est l'État-providence qui le fait.
Eh bien, Alex, j'ai pas tout bon compris au moment où il y a la glace qui montait en l'air pendant qu'il y a quelqu'un qui pissait dessus, mais le reste était limpide.
Je t'en prie.
Alors, on remercie notre invité Fred Lira de Autre Brésil pour ses interventions.
Merci à vous, hein. C'est super.
On remercie Gaël à l'interview, Jean-Marc aux chroniques, avec Alex aussi bien sûr, Jean-Yves et Ludo à la technique. Et une petite imagination nous ferait plonger dans la cellule de Julian Assange aujourd'hui en écoutant Spiderweb de Joan Osborne. I dreamed about Ray Charles last night. I could see just fine.